Eh ben, merci beaucoup d'être venu. Je sais pas, il y a quelqu'un qui nous fait coucou, donc faisons coucou, faisons-nous tous coucou. Voilà. Merci beaucoup d'être venu. Bonjour à tous. Ça nous fait plaisir en ce premier jour des Utopiales 2016. On a une table ronde qui s'intitule « Voiture volante, souvenir d'un rétro-futur ». Avec à la fois un spécialiste des voitures volantes, on va en parler, avec à la fois des gens qui connaissent très bien le steampunk et l'Uchronie, donc on va pouvoir parler de l'imagerie des voitures volantes, et puis trois auteurs qui n'ont pas forcément écrit sur les voitures volantes, mais qui auront sans doute des choses à nous dire. Voilà, vous allez écrire bientôt sur les voitures volantes. En tout cas, on pourra les faire un petit peu réagir. Juste à côté de moi, Patrick Guiguer. Donc Patrick Guiguer, qui est l'ancien directeur de la Maison d'ailleurs, ancien directeur des Utopiales, directeur artistique. Et puis, tu diriges en ce moment le lieu unique à Nantes et qui a justement fait un ouvrage sur les voitures volantes, souvenir d'un futur rêve. Qui est sorti il y a une dizaine d'années et qui sera un peu notre grand fil rouge de cet entretien. À ses côtés, Karim Berouka, qui vient de sortir Le Club des Punks contre l'apocalypse zombie.
Entre les voitures volantes, en fait.
Exactement, et qui avait fait Fait Oui dans la guillotine juste avant. Martin Lessard, qui nous a fait Terre sans mal et Les Saisons de l'Indépendance, notamment chez les éditions Adastra, qui sont pas très loin, qui sont à Rennes et qui nous vient du Québec, Martin Lessard, qui est un homonyme qui connaît bien les voitures volantes. Donc en préparant cette table ronde, je pense avoir un spécialiste, mais c'est pas lui. Donc pour le coup, on s'est loupé. Jean-Laurent Del Socorro à ses côtés, qui vient de signer Royaume de Vent et de Colère aux éditions ActuSF et qui travaille sur un roman avec des Celtes et des voitures volantes. Voilà. Il nous dira tout cela. Karine Goblet, qui est la fille de l'équipe, un petit peu, donc blogueuse avec le RSF Blog, jurée du prix Planète SF des blogueurs, je l'ai bien dit, du prix ActuSF de l'Uchronie, et qui a commis notamment le guide de l'Uchronie avec son compère Bertrand Campès. Donc notre référente Uchronie, c'est Karine. Et à ses côtés, Étienne Barillet. Alors Étienne Barillet, c'est un peu le référent de tout, hein, c'est-à-dire qu'il est spécialiste de Fantomas, de Philippe K. Dick, de steampunk. Donnez-lui un sujet, dans 2 ans vous avez un bouquin, et on parlera notamment de steam avec Étienne. La première question est pour toi, Patrick. À partir de quand est-ce qu'on a à peu près une période où apparaissent les voitures volantes ?
Bonjour, tout d'abord. On verra pourquoi les voitures volantes. Je crois que c'est un sujet qui est à la fois complètement anecdotique, vraiment, mais omniprésent dans la science-fiction. Et ça montre peut-être la force de la science-fiction à créer des images qui durent au-delà du réel, d'une certaine manière. Puisque la voiture volante, pour répondre à ta question, elle apparaît dans le réel dès l'apparition des voitures et des avions. Et moi, si je me suis intéressé aux voitures volantes, c'est pas parce que je m'intéresse aux voitures ou aux avions, ça ne m'intéresse absolument pas, je m'intéresse à la science-fiction, je m'intéresse à l'imaginaire de la science-fiction. Et les voitures volantes apparaissent dans le réel très vite, dès que la voiture apparaît, dès que l'avion apparaît, donc au début du XXe siècle, il y a des gens qui font des voitures volantes et qui fonctionnent. Il y a un Français qui s'appelle René Tampier qui descend les Champs-Élysées en 1921 avec un biplan dont les ailes peuvent se replier. Donc il descend les Champs-Élysées avec ce biplan aux ailes repliées et après il déplie les ailes et il s'envole depuis un parc quelconque. Donc voilà, l'histoire de la voiture volante devrait s'arrêter là, puisque ça a été créé, ça a été fait. Et ensuite, on pourra en parler, enfin, on peut en parler si vous voulez, hein. Il y a des voitures volantes qui se développent tout au long du XXe siècle et qui fonctionnent, en fin de compte. Ça ne fonctionne pas très bien, parce que techniquement, c'est moins intéressant qu'une voiture, ça va moins vite qu'une voiture, c'est moins fiable qu'un avion. C'est surtout devenu parfaitement inutile. Puisque après la Deuxième Guerre mondiale, ce qui se développe, c'est, il y a quelque chose qui tue la voiture volante tout de suite, c'est la location de voiture. C'est-à-dire que quand vous êtes aux États-Unis ou en Europe, peu importe où, et que vous prenez un avion et que vous atterrissez à Munich ou à Berlin ou à Vladivostok, eh bien vous allez chez National Rent-A-Car, Avis, peu importe la marque, et vous louez une voiture. Vous n'avez pas besoin de prendre votre voiture. Évidemment, c'est une aberration de prendre votre voiture avec vous lorsque vous partez en voyage. C'est quand même un peu encombrant. Mais en parallèle, ça reste, à travers tout le XXe siècle, jusqu'à aujourd'hui quasiment, hein, les exemples, on peut mettre peut-être quelques images que j'ai amenées d'exemples de voitures volantes réelles. Il n'y a pas de projection ici ?
Si, mais... Ah bah si, voilà, là-bas, on les voit sur les...
Voilà. Donc là, c'est une voiture volante célèbre imaginée par Mézières pour le cinquième élément. Il y en a d'autres peut-être que l'on peut voir. Il y a des voitures volantes de science-fiction très, très célèbres. Ça, c'est une vraie voiture volante, par exemple. Hein. Il y a deux types de voitures volantes dans le monde réel. Il y a les voitures, ce qu'on appelle les modèles intégrés, et les modèles modulables. Les modèles modulables, ça, c'en est une. Hein, c'est l'aérocar. C'est une petite voiture à laquelle on attache des ailes et un système de guidage. Donc, vous vous trimballez avec votre partie avion derrière vous, ce qui permet de la laisser à l'aéroport, cette partie avion, d'aller faire vos courses. Voilà, et ensuite, quand vous repartez de chez vous pour aller à l'aéroport, votre porteur vous amène vos vêtements, mais vous partez avec votre carlingue d'avion avec vous. Et les modèles intégrés, c'est ce qu'on imagine dans les films de science-fiction et dans la science-fiction de manière générale, c'est un objet qui se transforme. C'est-à-dire que c'est cette voiture qui dont les ailes se rétractent ou se déploient pour partir ensuite vers un autre... Enfin, pour échapper, on va dire, aux embouteillages. Parce que l'idée de la voiture volante, c'est quand même ça. C'est un objet de empowerment, comme on dit en anglais. C'est-à-dire que c'est un objet qui vous donne un pouvoir particulier que les autres n'ont pas. Et ce pouvoir-là, c'est celui d'aller plus vite que les autres, de sortir des embouteillages, d'être libre, en fait. C'est une espèce d'outil de liberté. Donc, c'est un rêve, on va dire, très occidental, post-Deuxième Guerre mondiale. De consommation de masse et d'une consommation qui fait de vous un être unique. C'est toute l'ambivalence, évidemment, de cette période-là qui vous vend des biens manufacturés à très grande échelle pour dire que vous êtes, vous, à la fois unique et que vous allez vivre dans le futur. Donc, les grands consortiums ne s'y intéressent pas. Parce que c'est quelque chose qui est lié plutôt à l'industrie aéronautique et non pas à l'industrie automobile. Au niveau des règles de sécurité, c'est quand même, il faut avoir des certifications très importantes. Donc c'est pour ça que ça ne marche pas finalement. C'est aussi parce que c'est inutile et c'est aussi, en fin de compte, parce que ça reste un objet de science-fiction. C'est-à-dire que c'est tellement un objet qui comme le traducteur automatique peut-être ou d'autres objets de science-fiction. Très symbolique, est tellement attaché au futur qu'aujourd'hui encore, lorsqu'il y a par exemple récemment, il y a peut-être 5 ans, il y a une marque américaine qui s'appelle Terra Fugia qui a fait une voiture qui s'appelle la Transition. Lorsque c'est sorti dans les journaux il y a 5 ans, eh bien, c'était une nouvelle fois annoncé comme la première voiture volante. Alors qu'en fait, il y en a eu tout au long du XXe siècle et c'est un objet qui n'a. Enfin, on n'arrive pas à se l'approprier, on n'arrive pas à se dire c'est faisable, mais c'est parfaitement inutile. Parce que voilà, on l'a trop vu dans les films, on l'a trop vu dans un imaginaire qui semble être une forme d'imaginaire distant. Mais d'une autre manière, ce qui est très intéressant à mon sens, c'est que ça représente, et c'est peut-être ça aussi le sujet de cette table ronde, ça représente ce rêve d'un an 2000 qu'on n'a pas eu, surtout. C'était ça le thème du livre. Le souvenir d'un futur rêvé, c'est comment est-ce que la science-fiction a réussi à reconstruire un futur qui n'a pas eu lieu, même aujourd'hui, évidemment, il y a certains endroits au niveau technologique qui ont largement dépassé ce qui avait été imaginé même dans les années 80, par exemple, ne serait-ce que les téléphones portables qu'on porte sur nous, l'accès aux données, enfin voilà, je ne vais pas vous faire un cours de base de la technologie quotidienne, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui est très loin des aspirations. Du futur qui avait été imaginé par nos parents, nos grands-parents, etc. Peut-être une ou deux images juste pour voir de ça, voilà, pour montrer que c'était quand même très grand public. Hein, l'aérocar a même eu sa maquette. Peut-être qu'on peut en passer encore quelques-unes. Ça, c'est une voiture très récente. Hein, c'est hier en cherchant sur le net. Chaque année, il y a des voitures qui sont imaginées, prévues. Merci. On va voir si j'arrive à... Oh, c'est compliqué. Voilà, ça, c'est cette voiture-là dont j'ai oublié le nom puisque j'ai trouvé ça sur Internet hier. Alors ça, c'est une de mes voitures préférées, triste à faire. Elle ressemble un peu à... C'est une Fiat Punto, en fait, sur lesquelles une structure de Cessna a été montée. Ça ressemble un peu à la voiture volante aussi qu'on trouve dans James Bond dans les années 70. Hein. Malheureusement, ce qui se passe dans cet exemple-là, c'est que durant l'un des vols, la structure du Cessna se désolidarise de la voiture et donc les deux personnes à bord se retrouvent avec une Fiat Punto à quelques milliers de mètres d'altitude. Et voilà, malheureusement, ça se termine extrêmement mal. La voiture volante très célèbre de Sid Mead, hein, designer pour Blade Runner. Voilà, c'est quelque chose qui revient fréquemment. La Boeing qui imagine dans les années 90 une autre voiture. Le Cartercopter aussi, puisqu'il y a des formes de voitures volantes qui ne ressemblent pas à des voitures, mais qui sont ce type-là d'imaginaire. Voiture volante aussi de Retour vers le futur, très célèbre. Tout ça alors que la voiture volante réelle existe. Hein, cette voiture-là de James Bond, hein, c'est... peut-être Diamants sont éternels, quelque chose comme ça. Non, c'est pas celle-là. J'ai oublié quel était le film de James Bond. L'homme au pistolet d'or. Très bien, merci. Il y a des gens qui sont plus cultivés que nous dans l'assistance, c'est toujours agréable. Notre voiture également, ça c'est une voiture qui date de 1917. C'est une des premières voitures volantes qui était là exposée dans une grande foire, dans un grand salon, c'est celle-ci. L'Airphibian de Robert Fulton, milieu des années 40, hein, là aussi, voiture modulaire dont la petite partie se désolidarise de la carlingue. Ça fonctionne très bien, ça aurait pu être mis en vente. C'est la première voiture volante qui reçoit l'approbation du Bureau fédéral de l'aviation, donc qui aurait pu être commercialisée, mais il n'y a pas assez de commandes. Il n'y a que 250 précommandes, ce qui, je trouve, c'est pas mal, mais il en faut 500, donc ça ne se fait pas. Voilà, l'Airphibian en vol, hein, ça ressemble à un petit avion standard, ça fonctionne très très bien, pas d'accident. Voilà, avec la petite famille, hein, qui va à la plage. Et voilà, vous pouvez aller faire les courses. Moi j'aime bien, c'est cette espèce de nostalgie du futur, vraiment, moi qui m'avait animé par rapport à ce livre. D'autres modèles aussi, des inventeurs maison, là évidemment le film de Bilal, Immortel Ad Vitam. Ici un Français dont j'ai oublié le nom, qui a transformé une petite voiture dans les années 70 et qui allait genre à la plage depuis Paris avec, de façon tout à fait légale. Mais c'était, voilà, une nouvelle fois un prototype. Le Skycar, qui est vraiment la voiture volante l'une des plus célèbres, qui n'est jamais volée, en fin de compte. Elle n'a pas volé. L'idée était d'avoir des turbines verticales, hein, c'est ce qu'on appelle un VTOL, Vertical Takeoff and Landing. Voilà, ça ne fonctionne pas super bien. Un autogire, là aussi, une sorte d'hélicoptère dont on peut replier les pales. Donc ça existait aussi, ça fonctionnait assez bien. Pete Kern faisait ça. Voilà, la vie en l'an 2000, c'était censé être ça. Les voitures volantes partout, les systèmes à grande vitesse, etc. La voiture de René Tempier, dont je vous ai parlé, 1921, les Champs-Élysées, voilà. Donc ça fonctionne. Terra Fugia, que j'ai évoqué également. D'autres voitures. Celle-ci a traversé les États-Unis, hein, c'est l'Arrowbile, 1933 ou 34, je crois. Voilà, très, très, très bel engin également. Vous pouvez parquer ces objets. Voilà. Je ne vais pas faire plus long parce qu'on est très nombreux, mais juste pour dire que voilà, la voiture volante, c'est un peu le Louison Bebet de l'engin de déplacement. Il est tout le temps là, mais jamais en premier. Voilà.
Moi, je retiens quand même que les mecs, ils ont pris une Fiat Punto quand même, hein, pour faire une voiture volante. Je crois qu'il n'y a pas pire. Karine, tu voulais réagir?
Donc, la voiture qu'on a montrée, qui a été trouvée hier sur Internet, elle s'appelle l'Aérocar. Et le concepteur expliquait qu'il devait avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de paperasserie, parce qu'il doit être à la fois sur de la réglementation du transport aérien et à la fois sur de la réglementation du transport terrestre. Ce qui fait que ça lui fait deux fois plus de tracas et deux fois plus de complexité pour pouvoir faire voler et rouler la voiture. C'est aussi une des raisons, je pense, qui explique que c'est un peu plus compliqué que de faire des voitures volantes, parce qu'il faut à la fois être sur une voiture qui va rouler et une voiture qui va voler. On a eu le même problème, pour donner un autre exemple, avec un tram, qui devait être un tram sans chauffeur par guidage magnétique. On devait le mettre en place dans ma région. Et ce tram n'a jamais pu être homologué parce qu'il fallait effectivement plus de sécurité puisqu'il était tout automatique. Voilà. Donc c'est aussi une des raisons qui freine, je pense, le développement technique de l'engin.
On imagine bien que simplement en termes de réglementation, si ça venait à être commercialisé, ce serait juste un enfer aujourd'hui. Quoi.
Oui, mais bon, après je me tairai, hein, promis. Mais je crois que ce qui était intéressant dans le rêve de la voiture volante, c'était, comme je l'ai dit, la liberté. Aujourd'hui, ce qu'on n'aura pas, jamais, même si on a la voiture volante, c'est cette liberté qui était celle de partir quand on voulait. Et de s'envoler, c'est pas comme ça en fait dans la réalité. Quand vous prenez un petit avion, il y a évidemment des plans de vol à faire, c'est très compliqué, tout est très réglementé. Les voitures volantes, même si elles sont automatisées comme les voitures, avec les GPS et les nouveaux systèmes de navigation, tout le monde saura en tout temps où vous êtes et vous serez contrôlé, dirigé, surveillé, on pourra vous repérer à tout moment. Donc ce rêve de liberté que symbolise la voiture volante, de toute façon, il restera un rêve de science-fiction.
Oui, Jean-Laurent.
Oui, donc bonjour, donc Jean-Laurent, donc grand spécialiste des voitures volantes. Donc je rappelle, donc j'ai écrit un Royaume de vent sur la guerre de religion en France, et j'ai écrit un livre sur les Celtes en l'an 1. Juste pour dire, donc moi je suis pas un spécialiste sur la question, mais quelque chose d'intéressant, moi en tant que lecteur et surtout au niveau du cinéma. On est... Oui, c'est rêvé, la voiture volante. Mais aujourd'hui encore, quand on a un visuel, c'est un symbole hyper fort. C'est-à-dire, pour un spectateur ou pour un lecteur, mettre une voiture volante, alors la réintégrer dans le récit, c'est un code hyper fort pour dire aux gens « Ah, on est dans un futur proche et on est dans la science-fiction. » Donc, ça reste quand même un symbole, un des symboles de la science-fiction aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que sur une imagerie hyper réaliste, par exemple, je pense au Minority Report de Philippe K. Dick au cinéma, où là, il y a effectivement le visuel hyper technologique. L'image des voitures volantes, elle est hyper intégrée, alors qu'on sait qu'effectivement, ce ne sera pas ça. Elle est gardée. Oui, je pense que ça reste quand même un symbole hyper fort de la science-fiction aujourd'hui pour signifier... On est dans un futur proche et on est dans la SF.
Et en même temps, est-ce que c'est parce que disait Patrick aussi, c'est un symbole mais relativement anecdotique en termes de dramaturgie, c'est-à-dire qu'il y a peu d'histoires qui tournent autour de la voiture volante, mais vous avez le droit de me contredire. Alors Étienne, parce qu'il n'a pas parlé, puis Martin Lessard, et après Karine.
Il y a une voiture volante célèbre, mais plutôt dans le monde anglo-saxon, c'est Chitty Chitty Bang Bang, donc roman de Ian Fleming, l'auteur de James Bond, adapté au cinéma sur un scénario de Roald Dahl qui a trituré le livre au maximum et qui a mis beaucoup de Roald Dahl dans l'histoire de Ian Fleming. Donc Disney en a fait un film avec nombre de chansons, des effets assez merveilleux, mais il y a cette histoire de voiture volante qui va emmener toute une famille, la famille d'un savant, vers d'extraordinaires aventures. Et ce film appartient vraiment à l'imaginaire américain. Et souvent, on va avoir des artistes du milieu steampunk ou qui travaillent le rétrofuturisme qui vont évoquer cette image-là. Pour rebondir sur ce que tu disais sur Minority Report, il n'y a pas de voiture volante. Dans le film, les voitures sont sur des rails magnétiques. Ceux qui volent, ce sont ceux qui ont des jetpacks. Et bien souvent, j'ai cherché des références, et ce que l'on trouve, c'est bien plus des jetpacks qui sont quand même nettement plus cool. Hein, c'est comme avoir une voiture de place plutôt qu'avoir la grosse familiale. Et là, le jetpack, lui, a un réel succès dans l'imaginaire. Enfin, il suffit de penser à tout l'héritage du Rocketeer de Dave Stevens, qui aujourd'hui encore fait florès. Donc le problème de la voiture volante, c'est peut-être, comme il était dit tout à l'heure, c'est que c'est quelque chose qui est à la fois visuellement très très fort, mais qui est dans l'idée même mort-né, parce que c'est peut-être sympa à imaginer, mais c'est pas aussi cool qu'un jetpack.
Martin Lessard.
Alors le symbole, selon moi, c'est le symbole américain des années, la grande période, je dirais, des voitures volantes en SF, dans l'écriture, même s'il y en a eu très peu. Il y en a eu quand même dans les années 40-50. Mais à cette époque-là, aux États-Unis, la voiture, c'était ça le symbole. Donc, ça a été transposé, la science-fiction, en la faisant voler. Mais la voiture, c'était important. C'était plus important que la famille. C'était plus important que la bonne job. C'était plus important que le travail, même si on pouvait avoir une grosse voiture, pas une petite. Les gros chars qui dépensent beaucoup d'essence. Mais on les voit, les modèles, c'est américain. C'est des grosses Chevrolet, c'était un symbole important, les Américains, avoir la voiture. Ben, en science-fiction, on l'a transposé en lui mettant des ailes, mais c'est le symbole est vraiment nord-américain. La possession, on parlait tantôt de la liberté, ben, c'est ça. On voit, c'est vraiment inspiré des années 40-50, les grosses ailes. Je sais pas si aujourd'hui on avait des voitures volantes encore, puis avec le même symbole qu'avant, ce ne serait pas des Mini Cooper. Ce serait des gros Hummer volants. Ouais. Faites au Texas. Alors, avec des armes.
Nous, on prend des Fiat Punto, quoi.
Ouais, la dimension du symbole, c'est important parce que c'est un symbole qui parle à tout le monde, qui parle au grand public, la voiture volante. Pour donner un exemple, dans la pièce, donc pour le coup, une uchronie, hein, Présent parallèle, une pièce de Jacques Attali, qui est jouée actuellement à Paris. C'est une pièce uchronique avec trois temps différents. Et l'entrée en matière, c'est une publicité. Dans cette publicité, on voit une voiture volante qui survole Paris. Et à un moment donné, elle passe devant l'Arc de Triomphe. Sur l'Arc de Triomphe, il y a deux bannières avec deux croix gammées. Donc on sait qu'on est dans le Paris, on sait qu'on est dans un Paris occupé, on sait qu'on est dans un Paris uchronique puisque c'est l'Allemagne qui a gagné. Et on a Luftwagen, donc non plus Volkswagen, mais Luftwagen, donc la voiture volante, la voiture du peuple. Et on sent la domination tout de suite, ça vous pose un décor, ça vous pose une Allemagne forte, ça pose une Allemagne victorieuse et une Allemagne écrasante aussi. Et ce symbole de la voiture volante, ça plonge le grand public, qui n'est pas un public de science-fiction sur cette pièce, ça plonge tout de suite le public dans un autre temps, un autre mode, et vraiment dans une science-fiction. Donc c'est aussi un symbole qui fait un pont entre un monde science-fictif, on va dire, peut-être réservé aux professionnels ou aux amateurs, et puis le grand public.
Patrick, là-dessus, deux questions. Est-ce que c'est vraiment un rêve plutôt américain? Parce que c'est un peu ce qu'on a l'impression en regardant les images et en s'écoutant. Et après, sur les ponts entre science-fiction et voitures volantes.
Alors, c'est un rêve américain parce qu'il faut des... Enfin, pour deux raisons. Parce que c'est un rêve de consommation, comme ça a été dit déjà. C'est un rêve de grands espaces aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand sens non plus d'aller en voiture volante depuis ici jusqu'à Paris, alors qu'en fait... Voilà, c'est quand même relativement près. C'est aussi en Europe, si on veut faire simple, c'est quand même les transports en commun qui ont été privilégiés par rapport aux États-Unis, où les transports individuels ont été mis en valeur. Et la voiture volante, c'est le transport individuel par excellence, avec le jetpack. Hein, et c'est vrai que le jetpack, c'est aussi l'autre symbole de ce futur qui nous a été promis et qu'on n'a pas eu. Il y a un livre célèbre qui s'appelle Where's My Jetpack qui parle de toutes ces promesses, voilà, de la nourriture en pilule, voilà, tout cet imaginaire qui date de la Seconde Guerre mondiale. Et après, entre le lien entre science-fiction et voiture volante, c'est que la science-fiction elle crée des images ou elle s'approprie des images quand elle ne les crée pas. Et elle va les utiliser au-delà même de la littérature. Hein. La voiture volante, c'est plutôt quelque chose qui apparaît sur les couvertures des pulps, sur les couvertures des magazines qui sont les magazines sœurs ou frères des pulps, qui sont les magazines grand public de technique, hein, qui sont Mechanics Illustrated, tous ces pulps, on va dire, destinés non pas à la fiction, mais aux technologies, sont aussi des chantres de la voiture volante. Donc, et comme la science-fiction, comme vous le savez sans doute, dans les années 30 à 50, l'imaginaire de l'illustration de science-fiction se développe presque indépendamment en fait, de l'imaginaire littéraire, puisque les illustrateurs se copient les uns les autres et créent leur propre tradition, la voiture volante, elle est, c'est ça, c'est l'image qui est en ce moment, elle a une forme qui dépasse la forme qu'on trouve dans la littérature. Dans la littérature, en fin de compte, la voiture volante, elle est assez peu présente. C'est pas quelque chose qui est très prégnant. On le sait bien, les écrivains ont un imaginaire qui est beaucoup plus fertile que cela et qui va beaucoup plus loin que ça.
Ouais, ben, le héros de science-fiction ne prend pas le transport en commun. C'est pas winner.
Suivez ce métro, ça marche pas, quoi. En fait. On sait qu'à un moment, il y a... D'autres œuvres où on a des voitures volantes, est-ce que le steampunk, par exemple, s'est beaucoup approprié cette image-là, puisque là, on parle de rétro-futur ou de futur rêvé?
Non, parce que le steampunk, lui, s'est approprié le gigantisme. Le steampunk, ben, ça va être la maison volante, la ville volante, le château ambulant. Nous sommes dans une dimension supérieure au sens d'un développement de l'imaginaire. Ce qui pouvait être... Là, je pensais au film, c'est le monde de avec George Clooney, le World of Tomorrow. Voilà. Où justement, il y a toute cette ville futuriste, tout cet imaginaire du futur, et j'étais en train de me demander, alors que vous parliez, s'il y avait des voitures volantes.
J'ai pas un souvenir de ces voitures-là, mais c'est vrai que ce soit le film avec Clooney, World of Tomorrow, ou le film récent, ou Stranger Things, par exemple, toutes ces références qu'il y a à l'imaginaire ou à la science-fiction qui font référence un peu aux années 80 ou aux années 60 convoquent un peu les images qui sont très proches de l'imaginaire des voitures volantes, de l'iconographie un peu pulp, si on veut, et reviennent aux années 80 qui elles-mêmes étaient très influencées par cet imaginaire. On sait bien que ce soit Star Wars, que ce soit Indiana Jones, tout ça vient du pulp des années 30, des années 40.
Jean-Laurent ?
Oui, donc effectivement, il y a peut-être un autre genre, par contre, qui est touché, même si c'est uniquement partiellement. Au niveau du policier de l'espionnage, on en citait James Bond, on citait un moment, en tout cas, ce qui est, je pense, beaucoup moins vrai aujourd'hui. Ce symbole, il est passé aussi dans ce média-là, au cinéma. C'est-à-dire, tout d'un coup, on a une espèce de super technologie. Donc ça touche pas que l'ASF, je pense, pour le coup. Mais je pense que ça a disparu, ça. Moi, je dis une grosse bêtise. On voit plus, on a de l'hyper-réalisme maintenant dans le policier. Je pense plus qu'on ferait du polar ou de l'espionnage en faisant apparaître ce genre de technologie. Je dis peut-être une bêtise.
En tout cas, la technologie a changé. C'est-à-dire qu'on va avoir du polar peut-être parfois un peu plus génétique, par exemple, ou sur des sciences un petit peu différentes, peut-être un petit peu moins sur la technologie. Mais encore une fois, Patrick, tu...
Ce que je trouve intéressant aussi dans la discussion qu'on peut avoir là, c'est la question de quelle est la capacité aujourd'hui de la science-fiction à créer des nouvelles images. Et quelles sont ces nouvelles images ? Parce que le fait de revenir à voiture volante est plutôt un mauvais signe, si on veut. Et le fait de s'intéresser, d'avoir des formes comme le steampunk, pour moi, est plutôt un mauvais signe. Dans le sens où, non pas que ça ne m'intéresse pas, c'est que ce sont des imaginaires et des images, des objets qui sont vus depuis très longtemps. Et quand il y a les films comme World of Tomorrow, comme Midnight Special, par exemple, que vous avez peut-être vu, qui est un film aussi très intéressant, qui fait apparaître des images futures qu'on a largement déjà vues, on peut se poser la question de la capacité d'aujourd'hui pour les projets grand public, en tout cas. Il y a Blade Runner 2 qui va sortir bientôt. On espère, enfin moi en tout cas, la seule chose que j'espère, c'est que ça va nous amener une iconographie ou une forme d'imaginaire qui aujourd'hui n'est pas encore représentée. Sachant que, voyant toujours beaucoup de films de science-fiction, j'ai peine à trouver des objets qui sortent, qui vraiment me transportent vers d'autres images que ce que j'ai pu voir. Il y en a, vous connaissez peut-être Shane Carruth qui a fait ce film qui s'appelle Upstream Colors, très abscon, très étrange, sur plutôt le bioengineering. Là, ça amène des images très, très particulières, mais dans la ville du futur, par exemple, qui est aussi la ville du futur, l'imaginaire, dès qu'on pense à la ville du futur, on a plutôt quelque chose qui clairement date d'il y a presque une centaine d'années. Quoi. C'est l'iconographie des années 30, des années 20 qui vient en tête. Quoi.
Karim.
Oui, Karim. Donc c'est marrant parce que moi, quand on me parlait de voitures volantes, je voyais seulement des voitures volantes comme celle-là. Là. L'idée dans la SF du début du 20e siècle d'avoir des voitures qui volent, mais pas des voitures hybrides qui puissent rouler et qui puissent aussi voler, mais qu'on remplace ce qui à l'époque ne devait pas être grand-chose, parce qu'au début du 20e, on ne devait pas avoir beaucoup de bagnoles et beaucoup de voies de route. On avait des routes. Mais d'avoir des voitures qui volent au lieu d'avoir des voitures qui roulent. Et ça, je trouve ça super beau, super marrant, complètement irréalisable. C'est un peu la science-fiction qui se confronte à la réalité, qui s'aperçoit tout d'un coup que bon, bah, ça se fera jamais, mais c'est pas grave. Et il y a une série qui s'appelle Doctor Who, que pas beaucoup de gens connaissent, et que il y a un épisode qui est assez génial qui se passe, je crois, sur une planète ou je sais pas quoi, où ils sont coincés dans un embouteillage de voitures volantes et ils savent pas trop pourquoi. En fait, ils sont là depuis des siècles. Bon, il y a une raison, mais on va pas la donner. Et donc leur vie se passe dans des bagnoles qui essayent de changer de niveau, de doubler, et ils volent en fait. Et en fait, c'est juste la problématique, si on avait essayé de faire des vraies voitures volantes et changer tout le réseau, parce que c'est sympa, on pourrait se promener sur les quais de Seine sans avoir des bagnoles partout, mais on aurait des voitures qui voleraient dans le ciel. Et c'est assez génial, mais après ça pose plein de problématiques. Comment on prend des autostoppeurs, où est-ce qu'on installe les radars, je sais pas. Et pour moi, c'est le rêve c'était l'idée de la voiture volante dans la science-fiction, je sais pas, au moins dans l'iconographie, enfin dans les dessins qu'on voit souvent, ou dans le cinquième élément par exemple, où ils se baladent tous en voiture. Je crois que dans Fondation aussi, au début, quand il arrive sur la planète, il prend une voiture volante pour aller je sais pas où. Fondation d'Asimov, aussi un livre qui n'est pas très connu. Et moi, c'est ça. Enfin, c'est l'idée, cette idée, et de se dire que voilà, les écrivains de science-fiction ont des idées parce qu'il y a des technologies qui apparaissent et qu'on va essayer d'en faire quelque chose qui semble assez plausible à l'époque, mais qui finalement confronte à la réalité carrément irréalisable.
Ça interroge un peu ce qu'a dit Jean-Laurent. C'est, est-ce que finalement aujourd'hui on a un rapport à la technologie qui est moindre? La technologie fait moins rêver. Les écrivains de science-fiction, on a une science-fiction qui est plus distante vis-à-vis de ce rêve technologique. C'est une question pour
juste
Étienne, pour
en
Patrick,
vitesse.
Pour
juste, on a quand même découvert depuis la Deuxième Guerre mondiale que la technologie n'apportait pas que des bonnes choses. Et qu'aujourd'hui, on est quand même dans un monde où on s'aperçoit qu'il y a un prix à payer pour cette technologie, au niveau social, au niveau écologique, et que c'est bien de faire des voitures volantes, mais ça polluerait peut-être le ciel. Enfin, bon, vas-y, Jean-Laurent, à vous.
Oui, juste, mais pour rebondir à ça, à dire oui, les visuels, on revient sur des visuels vus et déjà revus. Je veux juste mettre un bémol, c'est-à-dire qu'il y a une explosion, notamment au cinéma, des visuels de science-fiction via, j'imagine, la demande et puis les effets spéciaux arrivant depuis quelques années de façon très forte qui arrivent en masse. Mais il y a quand même un décalage, c'est pour ça que je mettrais... oui, peut-être sur les visuels de cinéma, sur les gros films, on a un visuel qui est très codifié, finalement, où dans la littérature, on l'a beaucoup vu, ou sur certains graphismes, on les a déjà beaucoup vus. Par contre, dans l'écrit, quand même, il y a des gens qui sont largement inventifs et qui proposent des choses. Il y a peut-être un décalage, en fait. Ce qui arrive au cinéma en grand public est en décalage avec l'inventivité des auteurs de science-fiction qui ont déjà un temps d'avance, je dirais, pour réinventer ces technologies-là. Voilà. Je pense qu'il y a, à mon sens, il y a ce décalage-là.
Oui, vas-y, Karim.
Je ne sais pas si on sort peut-être du débat, mais le rôle de l'écrivain, c'est d'inventer des technologies. C'est plutôt de... Enfin, est-ce que c'est pas plus d'imaginer des plausibilités, des possibilités avec les technologies qu'on possède, parce que inventer une technologie, c'est quand même assez balèze.
Surtout dans un monde qui est déjà technologique. C'est-à-dire que la technologie, maintenant, elle fait quand même partie du quotidien. Elle s'est banalisée entre les smartphones, ce qu'on peut faire en termes dans le domaine médical. Enfin, on peut opérer un patient à distance. Donc à un moment donné, est-ce que c'est pas compliqué d'imaginer des technologies et sortir des images nouvelles alors que la technologie, on baigne dedans? Enfin, regardez une voiture, il y a 30 ans, une voiture, il n'y avait rien dedans. Maintenant, en gros, vous avez un pneu dégonflé, vous avez une alerte qui sonne et on vous dit pneu avant droit dégonflé, quoi.
Il y a quand même assez peu d'écrivains qui inventent des technologies. Hein. Je crois que la science-fiction, elle n'est pas là pour inventer des technologies, elle est là pour réfléchir à des... au monde qui nous entoure, qui est entre autres un monde technologique, mais dont l'aspect scientifique, il peut être la science des sciences humaines. Il y a autant de science-fiction qui s'intéresse à la sociologie, bien sûr, qu'aux sciences exactes. Mais je crois que la science-fiction, lorsqu'elle fonctionne bien, elle s'intéresse aux usages et de la technologie, et non pas vraiment à un imaginaire du futur potentiel. Quand on voit une série télévisée comme Black Mirror, par exemple, qui est, à mon sens, parmi ce qu'il y a de plus intéressant aujourd'hui au niveau des idées dans un projet un peu grand public télévisuel, bah, elle essaye de convoquer un peu des nouveaux imaginaires, ou des nouvelles images, en tout cas, je crois.
Martin.
Ben, je pense que l'écrivain de science-fiction vit dans son monde. Si à cette époque-là, on créait des voitures volantes, c'est que probablement il n'y avait pas beaucoup de voitures sur les routes. Aujourd'hui, la logistique dans les grandes villes, je sais pas, je pense à Hong Kong, déjà à un seul plan, la logistique urbaine, c'est impossible. Le réseau routier est encombré, donc on s'imagine mal rajouter 5 ou 6 hauteurs de route. On le sait que ça ne fonctionne pas. Mais quand ça a été inventé, ou quand ça a été réfléchi ou pensé par l'écrivain de science-fiction, je pense qu'il n'y avait pas le pouls pour peser. Mais est-ce que l'écrivain de science-fiction d'aujourd'hui est moins inventif qu'avant? Je pense pas. Je pense que l'inventivité s'est déplacée. Peut-être que dans 20 ans, les inventions d'aujourd'hui... Ben, les inventions. En fait, l'écrivain pense à des inventions, il ne les fait pas. Peut-être qu'on rira des choses aujourd'hui. Mais l'invention technique qu'il y avait au début du siècle s'est transformée en invention plus scientifique, plus les micro-ordinateurs, les choses. Donc, je pense que ça se déplace. Je ne pense pas que l'écrivain de science-fiction est moins inventif, mais c'est différent.
Non, mais au début du siècle, c'était... on découvrait la technologie. On avait depuis très peu de temps l'électricité, la thermodynamique et tout ça. Et donc, on avait quand même une vision très... Il y a beaucoup d'utopies technologiques qui ont été écrites à la fin du 19e, où on avait quand même vraiment l'impression que la technologie, la science allait améliorer beaucoup, beaucoup la vie des gens. Elle l'a améliorée d'une certaine manière, mais pas complètement. En fait, c'est pas on n'est pas arrivé dans une sorte d'utopie où plus personne ne bosse parce que les robots bossent à notre place, où toutes les voitures défilent alignées dans le ciel sans se rentrer dedans. C'est vrai qu'il y avait cette nouveauté, et c'est on est en 2016, on voit ce qu'a apporté la technologie, on voit aussi ce qu'elle nous enlève, et donc je pense que et puis la science-fiction était toute neuve. Je pense qu'on avait vraiment la facilité et l'envie d'imaginer plein de choses dont on était probablement persuadé qu'elles allaient se réaliser. Alors qu'aujourd'hui, je ne suis pas certain qu'on soit si optimiste en général. Quoi.
Patrick.
Je suis tout à fait d'accord avec Sylvie Karim. Je crois que la difficulté aussi de s'intéresser à la technologie pour dire que ça va résoudre certains des maux, c'est évidemment, puisqu'on a vu qu'il y avait toujours des contre-indications à la technologie également, et des effets secondaires. Et d'une certaine manière, on vit vraiment aujourd'hui, je crois qu'on vit dans l'utopie aujourd'hui, dans la contre-utopie de nos arrière-grands-parents, nos grands-parents. Quand on regarde, quand on lit par exemple les ouvrages utopiques de la fin du 19e siècle, comme Looking Backwards, d'Edward Bellamy, ou d'autres ouvrages qui imaginent un an 2000 idéal, c'est le monde dans lequel on vit. C'est le monde occidental dans lequel on vit en grande partie. L'éducation pour la majorité des gens, de la nourriture pour la majorité des gens, un toit pour la majorité des personnes. Donc, d'une certaine manière, l'utopie, elle est réalisée dans ces... Dans une partie des résultats, la contre-utopie également, puisque il y a évidemment plus que jamais des inégalités. Quoi, plus que jamais, ça, on pourra encore en discuter, puisque apparemment, on est aujourd'hui le siècle qui est le moins inégalitaire de l'histoire de l'humanité. Mais c'est pas ça qui nous a amené le bonheur, quoi qu'il en soit. La réalisation d'utopie dans ses effets. Nous a pas transformés, nous a pas libérés, n'a pas fait de nous des êtres meilleurs. Donc je pense qu'il y a une certaine forme de désenchantement aujourd'hui, et en tant qu'écrivain de science-fiction, avoir des écrivains de science-fiction qui vraiment ont une réflexion positive, non seulement sur la technologie, mais de façon générale sur la société, c'est pas si facile. Et j'en cherche, parce qu'on lance par exemple ici avec le lieu unique un projet qui s'appelle Nos Futurs, NOS, où on demande vraiment à des gens plutôt de moins de 20 ans de nous imaginer le monde idéal dans lequel ils aimeraient vivre. Et c'est quand même hyper compliqué en fait de conjurer ces imaginaires positifs sans tomber dans une espèce de truc mièvre, complètement cucu. Mais voilà, quel est l'imaginaire du futur aujourd'hui qui nous amènerait à laisser tomber nos désillusions? Ça, c'est une vraie question, je pense.
Il y avait aussi dans ces utopies une chose qu'on n'a pas eue. Par contre, c'est l'idée que la science allait justement permettre à l'humain d'avoir beaucoup de temps, que la technologie allait le remplacer dans le travail, ce qui est un peu vrai puisqu'on a tout ce qui est robotisé, mais qui allait justement libérer l'humanité de cette obligation de travail et d'avoir vraiment des temps de travail assez limités. Et ça, par contre, on s'est confronté à des systèmes économiques qui n'ont pas permis ça, et qu'aujourd'hui on n'est pas du tout dans la réduction du temps de travail, parce que, et ça, c'est une chose qui s'est pas réalisée, malheureusement, je crois.
Oui, mais on voit quand même qu'il y a des expérimentations un peu partout, enfin pas partout, mais il commence à y avoir des expérimentations sur les revenus minimums inconditionnels, où je pense que dans les 20 prochaines années, c'est le cas déjà aujourd'hui en Finlande, mais pour des montants assez, assez bas. En Suisse, il y a eu un vote récemment, ce qu'on appelle une votation en Suisse sur un revenu minimum, donc ça a été refusé, mais il y a eu quand même 40% de la population qui a accepté que tout le monde reçoive, je crois, 1 500 ou 2 000 euros par mois. Aujourd'hui, les pays, voilà, les pays occidentaux ont les moyens de cela, et clairement, on va aller vers ça. Ça ne résoudra pas le problème. Les gens auront du temps pour faire quoi? Pour s'alcooliser, peut-être,
pour se cultiver, pour lire de la science-fiction.
Peut-être pas, parce qu'en fait, la société des loisirs, elle ne règle pas passablement de problèmes quand même, quoi.
Et là, du coup, ce qui est intéressant, c'est que sur un objet technologique, finalement, on dérive sur des questions sociétales, pour véritablement.
Mais je crois que c'est vraiment la question que pose la voiture volante, c'est quelle image du futur on a à cette époque-là, et quelle image du futur on a aujourd'hui, et comment est-ce qu'on peut créer de nouvelles images du futur, et pourquoi est-ce que c'est important d'avoir ces images du futur, parce que d'une certaine manière, c'est vers là où on doit aller. Si vous voulez aller quelque part, il faut que c'est mieux quand même de savoir où vous voulez aller, sinon vous errez lamentablement, quoi.
Est-ce que sur le projet Nos Futurs, tu as des images comme ça? Par exemple, on a lancé il n'y a pas longtemps un concours sur l'utopie et des utopies qui marchent, l'idée étant d'avoir des utopies qui ne se résument pas à il y a un accident nucléaire et du coup on reconstruit et c'est un monde utopique parce qu'on plante nos salades, quoi. Et on a vu combien c'était compliqué à imaginer, tu vois, des utopies futuristes qui fonctionnent. Est-ce que dans le projet Nos Futurs, c'est aussi compliqué ou...
Oui, pour l'instant, on n'a pas vraiment réussi à trouver des images qui ne soient pas des images rétrogrades. C'est pas même pas de rétro-futur. C'est vraiment l'utopie régressive, justement, comme tu le dis, ce truc que Ballard déjà critique dans L'Ultime Cité, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez cette nouvelle qui est très très belle, où des communautés vivent à la campagne, tout va super bien, ils mangent des salades bio et tout ça. Et il y a quand même un gars qui en a marre, et il voit la ville au loin, qui est une ville genre comme s'il était, il voyait Manhattan, et il retourne dans la ville, et il remet une dernière fois toute cette technologie en marche, et c'est une espèce de chant du cygne du 20e siècle triomphant, comme ça, quoi. Et l'imaginaire qu'on développe aujourd'hui, que l'on voit aujourd'hui, c'est ça, c'est revenir à la Terre, enfin des trucs vraiment hyper réac, quoi.
Un petit mot, parce qu'ils ne l'ont pas dit, mais on a deux auteurs qui ont fait et une voiture volante et une moto volante. Jean-Laurent et Martin, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment est-ce que vous les avez imaginés? Et puis pourquoi est-ce que vous l'avez fait? Juste pour jouer avec, ou est-ce que ça avait une vraie utilité dans le récit?
Ben, dans mon cas, c'est la moto volante, mais qui en réalité est plus un glisseur. Là. On parle de volant à basse altitude. Non, dans mon cas, il y avait une utilité. C'est sur une autre planète, c'est sur une colonie. Donc, quand on est là depuis peut-être 5 ou 10 générations, on ne s'est pas tout de suite attaqué aux routes. Donc, c'est une planète océanique, mais qui vit sur un archipel, mais où il y a des arbres. Donc, on fait du défrichage. Mais ça permet le, les communications, les estafettes entre, entre les villages. Donc, évidemment, voler le sol, il y a des fractures, tu peux passer par-dessus. Donc, c'est plus que pratique, c'est même essentiel. Sinon, tu le fais à la marche, mais sinon, tu le fais en volant. Bon, bon, évidemment, j'ai inventé une technologie alentour de ça. Les plaques tectoniques de la planète se frottent, donc ça crée de la piézoélectricité, l'électricité par frottement. Donc, il y a toujours une énergie dans le sol que les habitants là-bas, les colons, peuvent utiliser. Évidemment, j'ai fait fonctionner ça. Mais ben oui, c'était pratique, là, l'idée. Mais comme je vous dis, moi, c'est une moto à basse altitude. C'est, comme on en a vu d'ailleurs dans d'autres films, dans Star Wars, les glisseurs. Ou même aujourd'hui, la technologie existe avec les aimants, les trains qui volent, disons, qui sont en surface avec les aimants qui se repoussent. Mais voilà.
Jean-Laurent, c'est dans un jeu de rôle, toi.
Oui, moi, c'est beaucoup plus anecdotique. C'est au début des années 2000 sur un jeu de rôle qui s'appelait Circus. Là, on est dans le milieu de l'espionnage. Et ce qui était intéressant, c'est que je travaillais avec un illustrateur BD qui, en même temps, travaillait sur l'adaptation BD du travail du Furet de Jean-Pierre Andrevon. Et justement, les Chroniques de Centrum, qui est un peu dans cet univers rétro... entre guillemets rétro-futuriste, on est dans un Paris futur proche, enfin bref, et c'est lui en fait qui a amené la vision dans les dessins du jeu d'une voiture qui pourrait être volante, qui était réservée voilà à une élite, et du coup que j'ai réintégré. Donc ce qui était intéressant dans cet exemple là, c'est qu'on revient un peu, c'est que c'est d'abord une proposition graphique de se dire ah ouais, on est sur un futur proche, on propose une voiture volante, et c'est vrai que du coup ça donne tout de suite une image, et scientifique, c'est vrai, un peu rétro-futuriste du jeu. Voilà, donc c'était moins un moyen du jeu qu'effectivement un visuel. Ça n'a aucun intérêt dans le jeu en lui-même, mais c'est un élément fort pour signifier où on est en fait dans le récit, dans ce futur proche.
En cherchant pour cette table ronde, j'ai trouvé notamment des travaux d'artistes assez récents sur des voitures volantes, plutôt des voitures volantes des années 70. Donc en gros, l'artiste enlève les roues, hein, et puis on a des Sim Camille qui vole à basse altitude. J'ai malheureusement mangé le nom, sinon ça aurait été trop simple. Mais si vous avez l'occasion, c'est assez rigolo de voir des Lada volantes. Voilà, pour ceux qui sont vieux et qui ont roulé en Lada, ça laisse quand même pas mal de choses en termes d'imagination. Il nous reste une dizaine de minutes. Est-ce que quelqu'un a des questions à poser à nos invités ? Profitez-en. Soyez pas timide. Une fois, deux fois, trois fois. Ah, Christophe.
Bonjour. Donc, je voulais revenir sur les voitures volantes. En fait, ce qu'on a vu, je ne sais pas si c'est ce que vous en pensez, mais sur ce qui a été créé à l'heure actuelle, pour moi, il n'y a aucune voiture volante qui n'a été créée. C'est des avions auxquels on peut replier les ailes ou les démonter, ou un hélicoptère auquel on replie les... Mais ce n'est absolument pas une voiture volante. Et à mon sens, ce n'est absolument pas une voiture volante en termes de science-fiction, qu'on peut le voir dans différents films de science-fiction, où c'est réellement un véhicule qui a la forme d'une voiture, qui n'a pas d'ailes et qui vole. Quoi. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez.
Non, c'est juste, je crois que la complexité de l'objet dans le monde réel l'a toujours lié à l'industrie aéronautique. Et ce sont toujours des gens qui travaillaient sur des avions, ou en lien avec des avionneurs qui ont fait ce qu'on appelait aussi en anglais roadable aircraft, donc c'est des avions potentiellement roulants sur les routes. C'est jamais venu, et c'est pour ça que ça n'a pas pris aussi. C'est jamais venu, par exemple, si BMW ou Volkswagen, pour le coup, avaient fait une voiture volante, qui ont l'habitude de produire pour le grand public à des coûts quand même très bas, puis ça coûte très peu cher quand même une voiture par rapport à un avion, eh bien là, peut-être que ça aurait pu fonctionner. Alors que en lien avec l'industrie aéronautique, ça a toujours été un peu des prototypes. Et en effet, même on voit bien esthétiquement, ça ressemble plutôt à des avions. Quoi. Il faut savoir aussi que au départ, quand les voitures sont apparues, le public a eu un peu peur quand même. Hein, vous savez sans doute, hein, ça allait quand même très très vite, 20-25 km/h. Et surtout, on pouvait rouler n'importe où. C'était le bordel absolu, juste parce qu'il y a évidemment les routes, mais en fait, on allait écraser tout le monde et tout. C'était n'importe quoi. Jusqu'au jour où évidemment le système de signalétique routière a été mis en place, les feux rouges, etc. Et c'est ça qui a permis de contrôler le système, enfin la voiture. Et très vite, la voiture volante, elle s'est frottée aussi à ça, au fait qu'il fallait un système de réglementation que l'on connaît aujourd'hui. Hein, et le trafic aérien extrêmement dense dans lequel on vit aujourd'hui fait, je pense que si vous avez pris l'avion, c'est déjà arrivé, enfin moi, ça m'est déjà arrivé en tout cas fréquemment, où vous êtes dans l'avion et en fait, vous attendez parfois des heures dans l'avion pour qu'on vous donne le top parce que l'aéroport est complètement engorgé et c'est toutes les minutes seulement qu'il y a, un avion qui veut partir. Donc, c'est vraiment les règles de l'industrie des avions en fait, qui réglementent la voiture volante.
Karim ?
Mais clairement, c'est un peu la gestion du trafic avec des voitures volantes, ne serait-ce qu'en, même pas en ville, parce que l'idée d'avoir des voitures volantes, c'est aussi de les avoir dans les villes, parce que ça serait, c'est, enfin, le rêve, mais c'est pas gérable. Et, même en campagne, enfin, tu vois, les gens.
Mais c'est vrai que dans l'imaginaire des pubs, par exemple, ou des magazines illustrés de mécanique, on voit tout le temps quelqu'un dans sa maison, enfin, on voit une maison comme ça, avec le garage. Et devant le garage, il y a une voiture, enfin, une espèce d'objet qui peut décoller de façon verticale hein, et qui peut se rendre quelque part. Et c'est toujours ce rêve vraiment individuel. C'est jamais dans une tour de 50 étages, c'est jamais pour les prolos, c'est toujours pour une famille, hein, donc homme, femme et 2-3 enfants d'âge moyen, avec quand même une maison individuelle, voilà. Et dans le garage, quoi, ou à l'arrière de la maison, on peut se déplacer. Voilà. On peut utiliser cet objet qui se déplace. Donc c'est vraiment le rêve de la classe moyenne blanche américaine des années 50. Quoi.
Est-ce qu'il y a une autre question ?
Oui, là-bas tout au bout.
Non, il y en a déjà une là, et puis après on passera à vous.
Je voulais demander par rapport à... Vous avez parlé de qu'on était actuellement dans une utopie. Et est-ce que... Par exemple, en architecture, il y a eu des choses qui ont été faites, la circulation aérienne, et on se rend compte qu'au final, ça n'avait pas été, c'est un peu une désillusion de ce qui a été fait, et on ne se rend pas vraiment compte que on est vraiment dans une utopie. Est-ce que vous pensez que la voiture volante ne se fait pas aussi parce qu'on a un peu la désillusion maintenant d'avoir la possibilité d'aller en l'air? On a un peu l'impression que c'est là actuellement, et du coup, c'est un peu la désillusion par rapport à ça de...
C'est vrai que si vous êtes à Créteil ou à Évry, je pense que vous êtes calmé sur l'utopie constructiviste des années 60-70, au niveau architectural en tout cas. Mais en tout cas, l'utopie, évidemment, c'est un système de pensée qui sert de, à mon sens, hein, mais voilà, c'est mon avis, d'image d'un futur vers lequel il faut tendre, mais surtout vers lequel il ne faut pas arriver. C'est comme un horizon, en fait. L'idée, c'est de ne pas y arriver, toujours se déplacer dans une certaine direction, mais de ne pas l'imposer. Et je pense que le fait qu'il n'y ait pas de voiture volante vient peut-être de ça, du fait qu'on soit, rendu compte qu'il ne fallait pas imposer des choses qui étaient aberrantes.
Oui, une question là-bas.
Bonjour. Vous avez dit que le héros ne prend pas le transport en commun. C'est peut-être pour ça qu'on ne voit pas dans la science-fiction ce qui, pour moi, est un peu le nouveau fantasme de la voiture volante, l'hyperloop, le train par le pneumatique, qui est un nouveau fantasme qui serait écologique et rapide.
Qui veut répondre ? Hyperloop.
Oui, je suis parfaitement d'accord. Je pense que quand je parlais tantôt du déplacement de l'imaginaire de l'écrivain science-fiction, c'est un exemple. Le héros qui ne prend pas le transport en commun dans les années 50, c'est vrai. On parlait de la petite maison, la famille qui a souvent deux enfants, un garçon, une fille idéalement, un chien qui s'appelle Fido. Et ça s'est déplacé. Aujourd'hui, c'est plus ça. Les gens vivent beaucoup moins en banlieue. En fait, je ne suis pas ici en France, mais c'est la ville a replié sa place. En ville, qui dit ville, dit tour d'habitation, beaucoup de gens. Donc, le transport en commun, oui, peut-être. Le moyen de transport du futur du héros, qui sait, peut-être, oui.
Alors, on ne vous demandera pas s'il y a des gens qui ont des chiens qui s'appellent Fido. Dernière question, la voiture volante la plus cool, finalement, c'est laquelle? La plus classe?
C'est retour vers le futur pour moi. Ouais.
Ouais. Étienne, avec un.
la déesse blanche dans Fantomas.
Évidemment.
Les voitures volantes du cinquième élément.
Ouais.
Le taxi du cinquième élément, là, pour le coup.
Karim.
La Flying Trabande, pas encore inventée, mais qui a fait les beaux jours de l'Europe de l'Est.
Et toi, c'est laquelle t'as préférée, Patrick ?
Alors, moi, ma préférée, je vous laisse aller googler ça, c'est la Convair Car 118. Vraiment une magnifique voiture noire en fibre de verre, en fait, donc, qui date de 1948, sur laquelle on a installé des ailes. Et donc, à travers le toit qui était ouvrant, il y avait le système de commande, de pilotage qui passait. Donc, magnifique voiture qui s'est écrasée lors de son premier ou deuxième vol, 46 ou 48, parce que le pilote a confondu la jauge d'essence de la voiture avec la jauge d'essence de la partie avion. Et il n'est pas mort. La voiture a été complètement détruite. Ça a interrompu la production de quelque chose qui aurait pu se retrouver aujourd'hui. Et peut-être que sans ce petit accident aberrant, eh bien, nous aurions des voitures volantes. Voilà.
Une uchronie à écrire. Merci à tous. Vous pouvez les retrouver tout de suite en dédicace. Il y a une autre conférence qui commence. Merci.